plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, A comme Almodovar, Pedro Almodovar, Outrance et Passion, avec Diane Bracco et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. 20 ans qu'il l'espère, sa palme d'or, Pedro Almodovar, depuis qu'en 1999, David Cronenberg, président du jury, a préféré le Rosetta des frères Dardenne à son premier chef-d'œuvre, Tout sur ma mère, tout de même récompensé par le prix de la mise en scène. Dans 13 jours, l'ex-enfant terrible, emblématique de la movida madrilène des années 80, devenu un des patriarches du cinéma mondial, présente sur la croisette son nouvel opus Douleur et Gloire, qui sort sortira le même jour sur tous les écrans français. Peut-être le plus introspectif de toute son œuvre que ce 21e long métrage, en tout cas l'occasion pour ce grand conteur d'histoire avant tout, qui s'appuie sur des structures narratives toujours plus élaborées, de revenir à la fois sur son œuvre avec cet autoportrait d'un cinéaste qui n'est pas lui mais aurait pu l'être, et sur ses grands thèmes et obsessions, l'enfance, la différence, la construction de soi, la sexualité à la fois libératoire et oppressive, les mille et une formes du désir, la mer, bien sûr, et l'occasion aussi d'apporter une ultime pierre à ce jour à sa réflexion au long cours et en images sur les pouvoirs de l'art et de la représentation de la fiction en général et du cinéma en particulier pour combler les vides laissés par la vie, pour rendre plus complète, plus agréable, pour tout dire plus vivable, la réalité. Parce qu'enfin, Pedro Almodovar entretient avec le cinéma un rapport amoureux qui est aussi le nôtre, nous sommes ravis de lui consacrer aujourd'hui ce plan large en compagnie de Diane Bracco, enseignante au département d'études ibériques et ibéro-américaines à l'université de Limoges, qui s'était illustrée par sa thèse de doctorat « Anatomie de l'outrance, une esthétique du débordement dans le cinéma espagnol de la démocratie ». À ses côtés, libère, parfois outrancier, mais pas trop, de plan large et fin connaisseur du corpus almodovarien Fernando Ganzo, qui en fin d'émission, puisque je parlais de Cannes et de David Cronenberg en préambule, nous parlera du scandale qui déclencha en 1996 le crash du cinéaste canadien et aussi de la genèse du film et du livre sulfureux de J.G. Ballard dont il était l'adaptation. Il n'y a pas à dire, dans le Madrid des années 80, on était tout de même beaucoup plus tolérant et ouvert à toutes sortes de sexualités alternatives.
Qui est-ce ça ? Mes professeurs.
Cuarentona y blandita, como a mí me gustan. ¡Vengo meándome!
Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará.
Un poco difícil sí que va a ser. Pero valdrá la pena.
Seguro, yo te ayudo. Tú relájate, hija. Súbete a la silla. Levanta la pierna.
¿Cómo disfrutas? Oye, que no soy una vaca, ¿eh?
Bueno. Vale, se acabó, ya no hay más.
¿Tú de dónde eres?
Yo de Murcia.
Tú y yo vamos a ser muy buenas amigas.
On va bien s'entendre. Rien de mieux pour relier connaissances qu'une bonne séance d'ondinisme. C'est la rencontre dans un appartement, madrilène, entre Lucie, une quadragénaire bien sous tout rapport et épouse d'un policier machiste et conservateur, et de Bom, une chanteuse punk et lesbienne, présentée l'une à l'autre par Pépi, une sympathique dealeuse de marijuana qui s'est fait précédemment violer par le dit fonctionnaire de police, soit Eva Siva Alaska et la première muse de Pedro Almodovar, la grande Carmen Mora, dans Pépi, Lucy, Bom et autres filles du quartier. Un film, premier film d'Almodovar qu'on découvrira tardivement en France, hein, je crois que c'était en 1990, 10 ans après sa réalisation, mais donc acte de naissance cinématographique. Après un premier long métrage, il y en avait eu un avant, hein, en Super 8, qui ne sera pas distribué, Folé Metim, un film très bricolé, ce Pépi, Lucy, Bom et autres filles du quartier, qu'il a tourné, je crois, sur 1 an et demi, sans argent, le week-end, avec des séquences de fêtes, de briques et de broc, qui est passionnant à double titre, parce que c'est à la fois l'émanation de la Movida et, vu d'aujourd'hui, presque un documentaire sur cette période. Diane Bracco, il faut rappeler peut-être ce qu'est la Movida pour les auditeurs d'aujourd'hui. Todo lo que se mueve, todo lo innovador, todo lo que cambia. Vous nous traduisez, Diane Bracco?
Alors, tout ce qui bouge, tout ce qui est novateur, tout ce qui va changer. Donc, on est dans une période de mutation pour l'Espagne, puisqu'on sort de 40 ans de dictature. Franco est mort en 75 et on a entamé la période de la transition démocratique. Et ce qu'on appelle la Movida, c'est l'aboutissement de tout un processus d'évolution, des mœurs et de la création, dont Pépi, Lucy, Bom ici illustre le premier temps, donc la période plus contre-culturelle, plus avant-gardiste, influencée par le punk notamment, et qui va être marquée par une certaine volonté de provoquer aussi, plus que dans la Movida à proprement parler, qui ne commencera qu'à partir de 80 et qui va s'étendre jusqu'à 86. Et
donc c'est même précurseur, Pépi, Lucy, Bom.
Oui, ouais, c'est vraiment le premier temps. En fait, on a deux temps dans cette période de mutation, on a ce qu'on a appelé le rollo qui englobe la deuxième moitié des années 70, donc qui est influencé par le punk entre autres, et donc à partir de 80, on entre dans une période plus édulcorée, plus commerciale, plus marquée par l'influence du pop également, et c'est lié notamment à l'institutionnalisation de cette tendance par le soutien de la mairie de Madrid avec le maire Enrique Tierno Galván, qui mourra en 86, et sa mort va d'une certaine manière sceller la fin du mouvement.
Alors, vous parlez d'une certaine tendance à la provocation. On pourrait se dire, effectivement, en voyant cette scène assez explicite, qu'on est en plein dedans. Et pourtant, autant Almodovar a comme référence les films, par exemple, de John Waters, Pink Flamingos, mm-hmm. ou les films de Morrissey, hein, pour Warhol. Or, ce qui frappe d'emblée, quand on voit une scène comme celle-ci, c'est qu'il présente, enfin, en tout cas, vu d'aujourd'hui, le côté choc bourgeois, il me semble, est un peu effacé. Et quand on connaît la filmographie d'Almodovar, on se dit, voilà, il montre juste des gens qui ont certes une sexualité particulière, mmh. considérée comme déviante peut-être à l'époque, mais montrée comme normale par Almodovar, et ça sera toujours sa ligne directrice.
Disons qu'avec Almodovar, à cette période, et avec d'autres réalisateurs aussi de la transition démocratique, il y a une volonté de faire sortir du champ de l'invisibilité des pratiques, des comportements, des identités qui évidemment ne pouvaient pas être reconnues et représentées à l'époque du franquisme. Vous parliez de John Waters, donc Pink Flamingos, qui a un esprit beaucoup plus agressif, plus corrosif, qui ici a atténué aussi par l'humour. On a un humour qui est présent tout au long du film, alors joyeusement impertinent, insolent, mais qui permet en même temps de mettre à distance l'agressivité punk, hein, qu'on peut rencontrer chez John Waters. Et c'est ce qui fait aussi sans doute aujourd'hui qu'avec nos yeux de spectateurs de 2019, on perçoit les choses de manière un peu plus atténuée. Et là, cette séquence, je la trouve particulièrement révélatrice, parce que c'est voilà, une scène d'urophilie qui mêle en même temps l'amour lesbien, le sadomasochisme, mais on rit, on a envie de rire, et c'est cet humour-là qui met à distance l'agressivité de Baum, hein, la chanteuse punk sadique dont le comportement nous fait sourire en fait, hein, dans ce passage.
Qui est par ailleurs interprété par Alaska, donc c'était une jeune figure de la Movida à l'époque, qui avait pas mal d'argent, donc qui ramenait pas mal des choses de l'Angleterre déjà à la fin des années 70. Et il faut pas oublier que quelque part le film, pour Almodovar, peut-être inconsciemment, presque un acte de fonction de la Movida aussi. C'est-à-dire que pour lui, la vraie Movida, c'est 78-80. Et effectivement, ce qui commence après en 80, c'est une version beaucoup plus sage et acceptable, alors que tous ses camarades de la Movida commençaient à sombrer dans la drogue, à mourir, à disparaître, comme McNamara, important travesti chanteur avec qui il avait un duo de musique, et avec qui il invente ce qu'il appelle le chochonismo ilustrado, c'est-à-dire le chatisme illustré, et qui marque, je crois, cette séquence, c'est-à-dire que les personnages, même dans des tendances sexuelles extrêmes, vont parler d'une façon très quotidienne, comme si c'était des bobonnes, des femmes au marché, qui discutaient entre elles. Sauf que là, le sujet de discussion n'est pas les prix du poisson, mais on va dire quelque chose de beaucoup plus eschatologique.
Desde luego, si esto es un vestido de novia, que venga Dios y lo vea. Oye, tápale la cicatriz. No vayan a creer que la maltrato.
Oye, no, no, nada de taparle. Desfigúrale toda esta parte de la cara. Toda esta
a
sangre.
Mi niña no le desfigura nadie la cara mientras su madre esté aquí
delante. Va a estar mucho más guapa.
Mamá, por Dios.
Venga, pero, ¿qué es esto? ¿Un desfile de modelos? ¿O una sesión de cirugía antiestética?
Esto es una matanza, señora.
¿Una matanza?
¿Es usted don Francisco Montesinos?
Sí.
¡Ay, qué bien!
¡Qué ordinario es!
Señora, que la oigo.
Por eso le he dicho.
Que es que quería hacerle una entrevista.
Pero mañana mismo.
No le entretengo nada.
Ya, por favor, todavía estás así.
No le entretengo, solo un minuto. Mm.
Sí, sí, venga, ¿qué pasa?
La primera pregunta es que a ver. Oye, por qué le ha puesto usted a este desfile, a ver por qué le ha puesto España dividida.
Pues porque este país ha estado siempre dividido en dos. Angélica, tú estás así, no te has vestido.
¿En cuántas partes?
Después me das a mí.
¿En dos, por casualidad, ha dicho?
Sí, 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 básicamente en dos.
¿Y cuáles son?
Por una parte están los envidiosos y por otra parte los intolerantes. Elvira, por Dios, no te has vestido todavía.
¿Y usted a cuál pertenece?
Yo pertenezco a ambas.
Ah, qué interesante.
¿Y usted a cuál pertenece? ¿Cuántas veces os tengo que decir que no quiero que os piquéis en los camerinos?
Tío, que ya acabe un momento, por favor.
Si queréis drogaros, iros al retrete. Que para eso está.
¿Por qué esta serie de modelos se llama?
¡Ah! Uy, a ver.
Pero de verdad, querido.
No te preocupes, no te preocupes, que te queda divino, ¿eh? Sales así a la pasarela, no te preocupes. Queda salir... fantástico, queda divino.
¿Pero va a salir así la pasarela?
Ver, claro, es una profesional.
Uy, qué valor.
A ver. Ah, muy bien, Juan. Oye, mira, cuando ella te dispara, tú te quedas allí al fondo. Que tumbado y que se vea bien la capa. Que te cubra, sobre todo que se vea muy bien la capa, ¿eh?
¿Y por qué matan? ¿Por bueno, qué? ¿Por qué? ¿Quién mata a ese chico de la capa?
Ella, la de rojo.
¿Y por qué?
Pues porque él le ha dado un palizón porque ella no se quiere casar con él. Y ella tiene mucho carácter, como yo.
Ay, por eso estás contento.
Y por eso está así tan ensangrentada, ¿no?
Sí, claro,
por eso. Qué interesante es. ¿Entonces usted no cree en el matrimonio?
Mujer, el matrimonio es necesario porque si no, no existirían los trajes de novia como estos.
Ah, qué bonito.
Me voy, que es que tengo un mogollón.
Francis, la pistola.
Oh, bueno, escóndete a donde puedas, ¿eh? Vale. En el ramo. Y al final, de matar. ¿Mm?
Alors celle qu'on a entendue au début de cet extrait, c'est la merveilleuse, la formidable, j'en suis le fan numéro un, Chuslan Preave, figure majeure de la troupe d'Almodovar des premières années. Souvenez-vous, pour vous qui avez vu Dans les ténèbres, c'était la sœur rate d'égout dans le couvent des rédemptrices humiliées. Et ici, c'est la mère haute en couleur d'un mannequin. On est dans un défilé de mode, là, au cœur de la movida commerciale. Alors peut-être, comme la dénonce Almodovar, et le styliste qu'on entend parler, c'est Almodovar lui-même. C'est Matador en 1986, le cinquième long métrage de Pedro Almodovar. Et une journaliste l'interviewe dans cet extrait. Elle lui demande « Pourquoi avez-vous appelé ce défilé Espagne divisée ?» Il répond « Ce pays est divisé en deux. Il y a les envieux et les intolérants. De quel côté êtes-vous » lui demande la journaliste. Et il répond « Des deux ». Almodovar est quelqu'un qui est très engagé dans la société civile. Il a pris des positions politiques très régulièrement. Ses films sont beaucoup moins directement politiques. La figure de Franco en est quasiment totalement absente, même s'il y a dans certains flashbacks l'Espagne franquiste est portraiturée sur le côté, quoi, un peu à la marge. Mais Matador est sans doute ce qui se rapproche le plus d'un portrait complexe de cette Espagne divisée, Diane Bracco.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation du motif historique et mythique des deux Espagnes, hein, donc qui l'utilise ici de manière humoristique, qui trouve un écho dans les figures des deux mères, la mère du personnage joué par Antonio Banderas, hein, donc qui est Berta, il me semble, hein, si je me trompe pas, qui est la mère répressive, castratrice, membre de l'Opus Dei, et qui va incarner l'Espagne la plus conservatrice.
Ouais, c'est Berta qui est jouée par Julieta Serrano, Berta, grande actrice aussi, ouais. D'Almodovar, qu'on va retrouver dans le dernier,
fait, ouais.
Dans le dernier Almodovar où elle joue sa mère âgée.
Et donc cette Espagne qui est capable de générer des psychoses, hein, donc le personnage d'Antonio Banderas va s'accuser d'avoir commis des crimes, hein, il a intériorisé ce complexe de culpabilité. Et de l'autre côté du spectre, on a le personnage haut en couleur, hein, au sens propre comme au figuré, incarné par Chuslan Preave, qui est une mère libérale, progressiste, qui vit un peu par procuration l'existence de mannequin et les amants de sa fille. Et donc ces deux femmes vont l'une et l'autre incarner, hein, ces deux Espagnes qui s'affrontent. Et on est dans un film aussi qui joue sur la dimension mythique proprement espagnole. Hein, le motif de la tauromachie qui est annoncé dans le titre lui-même et qui est en même temps remodelé dans le film par l'approche postmoderne d'Almodovar. Hein. Il utilise cette iconographie de la tauromachie, ses consonances érotiques aussi. Hein, il va jouer là-dessus, hein, le dialogue entre amour, mort, pulsion de vie, pulsion de mort. Et il en fait quelque chose de propre, qu'il intègre à son univers. hein, il manipule, disons, cette matière comme une matière plastique, hein, pour l'intégrer, créer une rhétorique visuelle qui s'inspire donc de cette tradition espagnole.
Il me semble espagnole. Qu'il y a aussi un basculement dans ce film. Fernando Ganzo, Almodovar n'est plus tant là pour se moquer, pour provoquer, mais il commence à y aller à fond dans le mélodrame, et c'est pas pour rien qu'on le rapproche à cette époque d'un Fassbinder, c'est-à-dire qu'il va utiliser toute sa mémoire cinématographique. Almodovar est un grand cinéphile, autodidacte pour le cinéma, et alors il va citer au début du film, dans cette scène incroyable de masturbation d'un personnage masculin devant des films d'horreur, il va citer du Mario Bava, du Jesús Franco, les grands cinéastes d'horreur de l'époque, mais il va commencer à prendre des motifs du mélodrame et de Douglas Sirk en particulier, qui va traverser toute sa filmographie.
Et avec beaucoup de liberté. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est le muscle narratif qu'il a, Almodovar, pour jouer entre les genres. Parce que là, effectivement, il y a du mélodrame, mais c'est aussi un film, un pur thriller, avec le personnage du détective.
Et donc, il y a Duel au soleil qui est cité aussi très explicitement.
Qui est cité, comme effectivement, il y a beaucoup de citations dans ces films. Mais ici, entre ça aussi, l'appel érotique à la tauromachie, jouer avec les icônes de la tauromachie, avec le travestisme que cela implique, évidemment, fait de Matador son premier grand film, on va dire son premier grand objet, et Assumpta Serna, qui est l'actrice principale, qui remplace Charo López, qui n'a pas voulu jouer le rôle par ailleurs, elle a été un peu l'ambassadrice du film en France, parce que on s'est dit à l'époque, avec Matador, ça y est, c'est le film avec lequel Almodovar va être un peu reconnu à l'international, et elle organise une projection, profitant des amitiés françaises, à Paris, où elle va convoquer Pierre Hission, Pierre-Henri Delot, on va dire toute l'intelligentsia. Et la projection est un fiasco total. Et le public français n'aime pas le film. Enfin, ce public un peu de élite pour introduire Almodovar en France. Il y a même Rissian qui va dire à Assumpta Serna, ce film est trop espagnol. Pourquoi vous nous l'amenez? Ça va même nuire votre carrière. Ce sera plus tard, quand le film va sortir aux États-Unis, qu'il va finir par sortir en France, que ça va permettre à Almodovar d'avancer, de découvrir aussi Banderas. Et effectivement, c'est quand même le premier film où on commence à voir une conception très solide des genres cinématographiques, de l'histoire du cinéma, des influences, avec une souplesse et un muscle, encore une fois, narratif très, très, très fort.
Il faudra attendre encore 2 ans pour qu'Almodovar soit enfin reconnu en France.
No tengo sed.
Con esto conseguirás dormir.
Ya lo intenté. Y no me sirvió de nada.
¿A cuántos hombres has tenido que olvidar?
A tantos como mujeres recuerdas tú.
No te vayas.
No me he movido.
Dime algo agradable.
Sí. ¿Qué quieres que te diga?
Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo.
Todos estos años te he esperado.
Dime que te hubieras muerto si no vuelvo.
Estaría muerta si no hubieras vuelto.
Dime que aún me quieres como yo te quiero.
Aún te quiero tanto como tú a mí.
Gracias. Muchas gracias.
Pepa. Pepa, ¿estás bien?
Sí, sí, no es nada. Voy un momentín al lado.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Pedro Almodovar avec Diane Bracco et Fernando Ganzo. Alors je l'ai dit, c'est le film de la reconnaissance, non seulement en France, 600 000 entrées, mais à l'international, c'est Femme au bord de la crise de nerfs, avec cette scène que je trouve incroyable, de virtuosité et de magie et de beauté sur ce que permet le cinéma. C'est cette scène où Carmen Maura, encore elle, hein, dans le rôle de Pepa, elle est actrice, et là elle double une scène de Johnny Guitar, elle fait la voix de John Crawford dans ce dialogue très connu avec Sterling Hayden, échange d'amabilité et de mots d'amour, sauf qu'elle discute avec son ex-amant qui a enregistré le rôle de Sterling Hayden précédemment, et on se retrouve dans ce moment où elle vient de se faire quitter, mais elle peut encore échanger des mots d'amour avec son amant par la voix du cinéma. Alors pendant le tournage, rapporte Almodovar, Carmen Maura lui aurait dit, tu te rends compte que c'est le premier de tes films qu'on pourra aller voir en famille? États-Unis, ce qui explique sans doute le succès. Les gens ne se droguent pas, ne baissent pas. Est-ce que Almodovar prend une inflexion volontaire d'assagir son cinéma pour toucher un plus vaste public ?
Sans doute. En tout cas, effectivement, on note une évolution, peut-être une volonté de conquérir un plus vaste public, sans doute aussi d'exporter son cinéma plus franchement. Et cela va se confirmer avec Talon Aiguille 2 ans plus tard, hein, qui va avoir un succès retentissant à l'étranger. En tout cas, on note effectivement une évolution dans la narration, dans la plastique, dans la rhétorique visuelle. Et c'est un film donc, qui est inspiré surtout de la comédie américaine, la high comedy des années 40.
La comédie sophistiquée.
Voilà. Dans son schéma narratif, hein, dans ce jeu de chassé-croisé de personnages, qui se retrouve autour de Pepa, donc le personnage incarné par Carmen Maura, qui va constamment, hein, tout au long du film, essayer de communiquer avec Ivan, son ex-amant. Et donc cette séquence illustre justement l'évitement permanent entre les deux personnages. Hein. C'est une série de rencontres manquées et ils ne peuvent se parler que par téléphone, répondeur interposé, ou ici par le biais du cinéma lui-même, hein, qui est enchâssé dans le film. Et c'est ce qui est fascinant dans cette séquence, c'est qu'on a un bilan de la relation. Ils ne peuvent plus se parler et en même temps ce jeu de mise en abîme du film de Nicolas Ray, qui est un western féministe, hein, avec pour protagoniste deux femmes qui vont s'affronter, un personnage de femme forte, qui ici est suppliée par son amant, hein, l'homme ne veut pas qu'elle la quitte, or dans la réalité de Pepa, c'est elle qui désespérément essaie de contacter Ivan.
Mais c'est aussi un film sur des femmes qui apprennent à se passer des hommes, et ça, je vais citer un passage de votre thèse, Diane Bracco, vous dites que les tribulations des personnages interprétés par toutes ces femmes, les fameuses chicas almodovarianas, si je dis bien, et les univers essentiellement féminins de certains films, comme celui-ci, constituent, écrivez-vous, autant d'hommages à la femme espagnole qui évacue le modèle patriarcal franquiste et fonde cette dernière un pilier de la société démocratique.
Absolument. Dans ce film, c'est évident, les hommes sont évacués. Ivan est absent, c'est une corporealité fuyante, on n'a que des traces de sa voix, des objets, des souvenirs qu'elle finit par brûler sur son lit, dans son appartement. L'autre personnage masculin qui apparaît, hein, dans l'appartement, c'est celui de Carlos, interprété par Antonio Banderas, et qui est un jeune puceau bégayant qui finit par partir avec Candela, l'ami, donc qui abandonne Marisa, sa compagne. On a les policiers qui sont totalement inefficaces aussi, qui finissent par s'endormir en buvant le gazpacho somnifère. Donc tous les hommes finalement sont présentés comme impuissants ou fuyants, et celles qui s'affirment ce sont les femmes, et Pepa en particulier qui, à la fin du film, finit par dire adieu à Ivan. Elle n'a plus rien à lui dire et elle retrouve une certaine forme de sérénité dans son appartement à la fin, entouré des autres personnages endormis.
Alors, il me semble, Fernando Canzo, qu'il y a aussi une grande évolution stylistique dans ce film. C'est le film où apparaît l'Almodovar coloriste, avec ses fameux aplats de couleurs, l'Almodovar de studio aussi, le fétichisme des objets, des peintures, des meubles, qui généralement viennent de chez lui.
Oui, c'est là qu'il commence à devenir, comme il dit, un peintre qui met de couleurs devant une caméra au lieu de sur une toile. C'est surtout un film que, quand on le revoit aujourd'hui, alors que c'était un grand succès commercial, il dégage presque quelque chose de conceptuel dans la structure. C'est un film presque où la trame est évacuée. On la comprend vraiment à la fin, mais en fait, sinon, c'est une succession de scènes qui s'est nourrie effectivement de beaucoup de choses, du cinéma, du grand cinéma, du petit cinéma, de la littérature qui sera une influence de plus en plus importante, la haute littérature chez Almodovar. Mais aussi, le film est conçu quelque part comme une succession des lettres des lectrices de la presse féminine. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est là aussi qu'il va chercher cette source de démocratisation, si on veut, ce discours quelque part féministe. Et aussi, c'est quand même un film où le succès était indispensable, aussi pour une raison, je reviens un peu tout à l'heure, mais c'est que c'est le deuxième film d'El Deseo, de la boîte de production qu'Almodovar va créer.
Avec son frère.
Avec son frère Agustin. Et le premier, La loi du désir, c'est La loi d'El Deseo, évidemment. Et c'est un film qui va se retrouver absolument oublié, par exemple, par l'Académie du cinéma espagnol. Et donc, c'est un moment où Almodovar a vraiment besoin de faire un succès. Et donc, c'est pour ça que c'est étonnant que, avec le côté où le film a pour tout public, comme Carmen Maura disait, c'est à côté de tout ça, c'est un film extrêmement conceptuel, extrêmement esthétisant et quelque part un film assez radical.
A mi Prada me parece ideal para Moja.
Mi problema es que como me sienta todo bien, soy muy ecléctica.
¿Sabes que me ha salido esa bañera desde que estoy en Barcelona?
Ah, sí. Pues mi madre tenía una receta para...
¿Quieres que vaya por más?
No, me encantaría, pero no. ¿Dónde está el baño?
Ahí, recto.
¿Ahí?
Perdona.
¿Cómo se lo hacen este poner más día de lo que está pasando en esta casa? Que ni que fuera una extraña.
Mañana te lo cuento.
No le digas nada, que esta no es capaz de tener la boca cerrada.
Yo sé muy bien cómo tener la boca cerrada. No he seguido la corriente como una inglesa para que Doña Sume no se coscara de nada. Pero si soy un modelo de discreción, hasta cuando me estoy comiendo una polla sé ser discreta. La cantidad de pollas que me he comido en lugares públicos sin que nadie, excepto el interesado, se diera cuenta.
El tiempo que hace que no me como yo una polla.
Pues a mí me encanta la palabra polla. ¡Y pollón! ¡Ay, qué rica!
Me tengo que ir.
¿Estás bien?
¿Eh?
¿Estás bien?
Mejor que nunca.
Bueno, agradito, ¿por qué no la acompañas a coger un taxi?
Ah, me olvidaba. Esto es para ti.
Gracias.
¿Eh? Bueno, niñas, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Tú me tienes que enseñar a ladrar, ¿eh? Sí, sí.
Creo que he estado un poquito ordinaria con Uma porque le he dicho de todo.
¿Sí? No pasa nada.
C'est devenu presque un cliché de parler d'Almodovar comme le cinéaste des femmes dans tous leurs états. Ici, c'est le quatuor de Tout sur ma mère, les grandes actrices almodovariennes, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, qui commence à arriver dans le cinéma d'Almodovar, Antonia San Juan, qui joue le personnage du transsexuel Agrado, celle qu'on entend aboyer dans cet extrait. Voilà, c'est sans doute le premier chef-d'œuvre, à mon sens, en tout cas, d'Almodovar, Tout sur ma mère. Alors je l'ai dit, il a eu seulement le prix de la mise en scène à Cannes en 1999, alors que beaucoup lui donnaient la Palme d'Or. Il aura quand même l'Oscar du meilleur film étranger. Je vais citer la longue dédicace qu'il y a à la fin du film, un film dédié à Bette Davis, Jenny Rollands, Romy Schneider, à toutes les actrices qui ont interprété des actrices, à toutes les femmes qui jouent, aux hommes qui jouent et se transforment en femmes, à toutes les personnes qui veulent être mères. À ma mère, avec ce titre Tout sur ma mère qui fait référence au Eve hein, de Monkey Vix, All About Eve, référence trompeuse sans doute, puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait comme ça un personnage ambitieux qui veuille prendre la place d'une actrice sur scène, etc. Le film va raconter toute autre chose, puisqu'en fait, en dessous se cache une autre référence assez évidente quand on y repense, c'est le film de Cassavetes, Opening Night.
Oui, alors vous avez cité là, ce texte hein, qui se surimprime à la fin du film et qui éclaire tout le propos du film. C'est un hommage aux femmes, à la figure maternelle en particulier, et il se trouve que la sortie du film coïncide, hein, le hasard fait que cela coïncide avec la mort de Francisca Caballero, qui est la mère d'Almodovar, et on sait combien la mère a eu un rôle important dans son itinéraire personnel et artistique, hein, il lui a confié des rôles dans plusieurs de ses films, ou a créé des alter-ego de cette figure maternelle. Et donc ce film est un hommage à la figure maternelle qui est incarnée surtout par le personnage de Manuela, la protagoniste qui a perdu tragiquement son film au début de
son fils,
au début
du
film.
Mais
c'est un bon lapsus. Tout à fait. Et qui va d'une certaine manière voyager à Barcelone vers son passé pour retrouver le père de son enfant et qui va rencontrer plusieurs personnages ou retrouver d'anciens amis comme le transsexuel Agrado. Et elle va d'une certaine manière jouer le rôle de mère de substitution ou un rôle maternel avec plusieurs d'entre eux. La jeune Rosa par exemple, le personnage de religieuse. Et donc c'est ce rôle maternel qui est célébré. Et en même temps, c'est un hommage aux actrices aussi, vous avez dit, aux femmes aussi qui jouent la comédie. Et ces femmes ne cessent de jouer la comédie dans le film. Manuela elle-même se fait passer souvent pour ce qu'elle n'est pas. Elle se fait passer pour une prostituée lorsqu'elle fait la connaissance de Rosa. Elle se fait passer pour la sœur de Rosa lorsqu'elle l'accompagne à l'hôpital. Donc il y a tout ce jeu-là aussi autour de la comédie, autour du monde du théâtre, bien sûr, qui est aussi incarné par le personnage de Uma Rojón, hein, qui est actrice professionnelle.
Je parle Marisa Paredes. Et qui joue un tramway nommé Désir pendant toute la pièce, pendant tout le film. Voilà, moi aussi je fais des lapsus.
Donc on a l'enchâssement du monde du théâtre hein, dans ce film, et le monde du théâtre qui convoque aussi la thématique de l'artificialité. C'est quelque chose qu'on avait déjà rencontré dans Femme au bord de la crise de nerfs, hein, qui est prolongé ici, et qui à mon sens actualise aussi la problématique baroque hein, du monde comme théâtre.
Fernando Ganzo, Almodovar, dira même que la femme espagnole est consubstantiellement une actrice. Il va reprendre les mots de García Lorca. L'Espagne est un pays d'actrices, expliquant qu'elles ont toujours eu à dissimuler dans une société extrêmement machiste et que ça en fait des actrices par nature.
Bah, effectivement, c'est pour ça que sa mère a été une source d'inspiration et qu'elle est présente dans tous ses films. Et je crois que c'est pour ça qu'Almodovar, qui était quelqu'un qui habitait dans la rue, quoi, qui habitait dans la nuit dans les bars et le jour dans les marchés, où il allait se balader pour enquêter et trouver des histoires, va établir des rapports très particuliers avec ses actrices qui vont devenir des muses, des chicas Almodovar, peu importe, et qu'il va garder en relation très proche, très intense, presque une actrice par décennie. Donc si Carmen Maura c'est les années 80, Victoria Abril serait les années 90, puis Penelope Cruz les années 2000. Et il y a un rapport extrêmement proche et intense avec ces femmes, puisqu'il s'est nourri de ça, donc cette vie active, on va dire, qui était la vie de la nuit, et des marchés, etc. Et que petit à petit, de laquelle petit à petit il va devoir s'éloigner pour passer une vie contemplative. Ce rapport à la vraie femme espagnole qu'il arrête de voir, puisqu'il commence à ne plus tellement vivre dans la rue, quoi, va petit à petit modifier son cinéma.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Réunion d'amis, un homme chante, c'est tout simplement Caetano Veloso, et c'est un moment de grâce rarement atteint au cinéma, à mon sens. C'est en tout cas deuxième chef-d'œuvre d'affilée, juste après Tout sur ma mère, c'est Parle avec elle. Et le cinéma d'Almodovar ne retrouvera peut-être jamais plus cette puissance lyrique et baroque, enfin on va en reparler avec son nouveau film. Il continue son exploration de la frontière entre la vie et la mort, son exploration de l'univers hospitalier aussi, extrêmement présent dans son œuvre, y compris dans son nouveau film. Mais surtout, il me semble que c'est une nouveauté. Là, il va confronter son cinéma non plus seulement avec celui des maîtres qu'il admire, des maîtres du cinéma. Il y avait la peinture déjà qui arrivait, mais arrivent d'autres formes d'art, comme la musique, ce qu'on entend ici, qu'il filme vraiment merveilleusement, et la danse, celle de Pina Bausch, qui ouvre et qui clôt le film. Comment va-t-il se nourrir de ces formes d'art qui vont au-delà de la citation, c'est au-delà de « je vais vous montrer mes amis », le monde merveilleux dans lequel j'évolue, ça influe vraiment son cinéma.
Alors, c'est un film qui propose une réflexion sur le langage et les langages. Parle avec elle, hablé con ella en espagnol, c'est une réplique de Benigno, personnage de Marco dans le film. Alors, Benigno est quelqu'un qui parle, hein, à la femme aimée qui est plongée dans le coma, tandis que Marco ne parvient pas, lui, de son côté, à parler à son amoureuse Lydia. Donc, ce que pointe cette réplique, cette exhortation à la parole, c'est, disons, l'insuffisance du langage verbal. Et d'une certaine manière, ce langage verbal, il est compensé par d'autres langages artistiques. Vous avez parlé de la danse, effectivement, avec ces deux ballets qui ouvrent et ferment le film. Le langage du corps, le corps va parler, va exprimer. La danse est aussi mise en relation avec la chorégraphie tauromachique, incarnée par Lydia. Et on a par ailleurs cette musique, qui est cette reprise, qui est presque une réécriture, de Cucurro Cucu Paloma, qui va aussi livrer des informations sur les sentiments des personnages. C'est une chanson chanson qui parle du mal d'amour, un chant populaire mexicain des années 50. Et les paroles elles-mêmes vont éclairer la situation des personnages. Donc Lydia et Marco ont tous les deux vécu des ruptures douloureuses, vont former un nouveau couple, mais qui va être rapidement en crise pour des raisons d'incommunication. En fait. Donc c'est ce film-là utilise les autres arts, les fait interagir pour, disons, créer un réseau signifiant qui nous éclaire sur cette approche du langage.
Et puis, nouveauté aussi, Fernando Canso, avec ce film pour Pedro Almodovar, il me semble que c'est la première fois qu'il filme une amitié entre hommes, qui ne soit pas, qui ne contienne pas une notion de désir, par exemple, et peut-être, sans doute, pour cela, faut-il mettre, comme disait, c'est Mariam de Medeiros, ça avait eu un très beau mot à la sortie du film, elle disait, peut-être fallait-il mettre les femmes en mode pause pour pouvoir décrire ce rapport masculin-là. C'est vrai que les femmes prennent tellement d'importance dans le cinéma d'Almodovar qu'il faut presque les endormir pour pouvoir commencer à parler des hommes.
Oui, et qui vont revenir dans son tout dernier film, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ça, c'est il faut mettre les femmes en pause. La vie a été mise en pause, Almodovar commence à vivre de plus en plus isolé du monde, c'est pour ça que c'est toutes les références que Diane vient de dire, mais aussi le cinéma, il y a L'homme qui rétrécit, oui. Il y a Marguerite Duras, voilà, c'est la transition de la vie active à la vie contemplative, mais si on réfléchit le film dans ce point de vue-là, le fait de parler d'une femme qui dort, est-ce que c'est pas aussi quelque part une façon de parler de lui-même et de le changement de sa vie? C'est le moment où, par ailleurs, cette obsession qu'il y a dans son cinéma avec les hôpitaux et les médecins qui sont pratiquement dans tous les films, parfois c'est des petites visites chez le docteur, chez le dentiste, et il va arriver avec en plus d'importance. C'est aussi un film où Almodovar va avoir quelques soucis, parce qu'on avait parlé de sa politique, qui est donc la politique d'Almodovar, c'est l'autonomie morale de tous ces personnages qui veulent être libres, etc. Il a été toujours prudent pour parler des politiques, alors que lui, par ailleurs, quelque part, il cache pas ses engagements. Par rapport à ce que le film raconte, c'est la première fois qu'il a eu dans son histoire d'amour avec le journal El País, et qui finira en tragédie. Mais bon, avec le film Parle avec elle, c'est la première fois où El País publie une colonne dans laquelle on dit « Attention, le film d'Almodovar, est-ce qu'il pourrait être moralement critiquable ?» Et je pense que ça aussi a dû jouer quelque part chez Almodovar pour avoir une espèce de prudence. Et effectivement, ça a encore poussé plus fort dans sa prise de distance avec le monde.
Il faut dire qu'il y a des éléments extrêmement scabreux dans ce film, qui est un mélodrame tout à fait foudroyant, filmé par un autre, ça aurait pu être un film complètement lamentable. D'ailleurs, c'est très étonnant comment Almodovar évite de représenter directement les scènes qui pourraient être problématiques, et en l'occurrence, c'est le viol d'une femme dans le coma, et lui va le figurer par ce film auquel vous faisiez référence, inspiré de L'homme qui rétrécit, donc qui s'appelle L'amant qui rétrécit, où Almodovar fantasme un cinéma muet espagnol qui n'a en fait jamais vraiment existé, mais qui va montrer par une double, triple distanciation figurer ce qui se passe dans la réalité. Diane Bracco.
Oui, alors c'est un exemple de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation des arts, en l'occurrence l'art cinématographique, où il va donc dans cette séquence qui prépare le viol, en tout cas ce qui sera perçu par la loi comme un viol, nous on l'aperçoit comme une scène d'amour, et donc dans cette séquence où on voit Benigno masser le corps d'Alicia dans le coma, s'intercale donc la projection du film, donc L'amant qui rétrécit, que Benigno a vu la veille au cinéma. Il raconte régulièrement à Alicia les films, les spectacles qu'il a vus. Et donc ces images du film, de ce film muet sont commentées par Benigno à la manière d'un bonimenteur. Et ça raconte l'histoire d'une femme, d'une savante, qui essaie de créer une potion amaigrissante. Son mari boit cette potion et donc va rétrécir jusqu'à devenir minuscule. Et le court-métrage s'achève sur le personnage masculin qui s'abîme dans le sexe de sa femme endormie, qui provoque sa jouissance. Et donc ce court-métrage est là en fait pour métaphoriser le viol qui est en train de s'opérer au niveau du premier degré narratif du film. Il fait un petit peu office de paravent. Il rend la chose très poétique et en même temps nous permet de ne pas percevoir ce qui est en train de se passer comme un viol. On perçoit Benigno comme un homme aimant, même si effectivement l'acte en soi, sans consentement, reste un viol aux yeux de la loi. Ça poétise les choses et ça la rend acceptable pour le spectateur.
Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor.
¿Para qué has venido?
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
32 años.
Ah, qué bonito. ¿Qué son esos árboles? ¿Abetos?
Pinos. ¿Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años?
La Filmoteca ha restaurado el sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado para un ciclo de de Cine Rodado en Madrid. Bueno, me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos.
¿Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje?
Bueno, si lo saben, no me han dicho nada.
Vous écoutez France Culture Plan Large sur Pedro Almodovar avec Diane Bracco et Fernando Ganso. C'est le dernier film à notre programme. On fait un saut de 17 ans en avant. On est un peu pressé par le temps. Il faudra attendre le 16 mai pour le découvrir. Non, le 17, le jour de son passage à Cannes en compétition, alors qu'il est sorti le 22 mars en Espagne, ce Douleur et Gloire. Et vous êtes allés tous les deux en Espagne le découvrir, Diane Bracco et Fernando Ganso, dans un pays où, vous l'avez dit un peu, Fernando, il n'a pas toujours été bien considéré. Ces films y ont toujours moins bien marché qu'en France. Le film, je crois, marche très bien. Il a fait un démarrage record. Il a dépassé Captain Marvel le week-end de son premier week-end de son exploitation. 180 000 spectateurs. Quel est le statut d'Almodovar aujourd'hui en Espagne?
C'est un rapport très compliqué, hein, parce que à un moment donné, il n'y avait que les films d'Almodovar qui marchaient au cinéma. Je crois que Femme au bord de la crise des nerfs va rester au top du box-office pendant 2 ans, ce qui est presque extraordinaire. Mais après, effectivement, il y a eu des rapports plus conflictuels. C'est un rapport d'amour-haine, notamment avec l'Académie des Goya, par exemple, La piel capito, qui est pour moi un de ses plus beaux films, va avoir 16 nominations. Et donc, il va revenir, parce qu'il avait arrêté d'aller à la cérémonie. Il n'y a que l'actrice et le maquillage qui ont le prix, et ce qui est perçu comme une espèce d'humiliation que l'Académie a voulu faire à Almodovar. Son rapport avec El País, effectivement, si les gens sont attentifs dans tous les films d'Almodovar, où souvent un personnage lié à El País. Maintenant, il est la Vanguardia. depuis qu'un critique d'El País avait dit pour cette étreinte brisée, j'irai pas le voir dans je sais pas quel festival parce que je suis pas masochiste. Donc, le rapport d'Almodovar à son pays, à son public est très, très particulier. Lui-même, il l'a dit, c'est un pays divisé entre les envieux et les intolérants. Quelque part, il avait pas tort, mais n'empêche qu'effectivement, le public, il va souvent revenir chez lui, voire Volver, c'était déjà un grand succès. Et donc, avec Douleur et Gloire, il y a quelque part aussi une façon de lui-même de parler de cette époque où il était au cœur d'un mouvement historique de la culture, la contre-culture espagnole, à Madrid, à Galice, etc. Et c'est peut-être quelque part, effectivement, vous le dites bien Antoine, une façon aussi de réconciliation avec son propre public.
C'est un film très complexe, là encore, dans la structure narrative. On est sur trois époques, l'époque contemporaine, l'enfance dans les années 60, déjà évoquée dans La mauvaise éducation, hein, par exemple, et puis sous la forme d'un texte qui va être dit par un acteur, l'évocation des années 80, les années de la movida, de la drogue et de l'effervescence créatrice. Et alors, pour ceux qui en ont vu des images, c'est très troublant, parce que c'est Antonio Banderas qu'on a entendu là dans cet extrait, 37 ans après sa première apparition chez Almodovar, c'était dans Le Labyrinthe des Passions. Il va jouer un cinéaste en crise d'inspiration, misanthrope, isolé dans son appartement, mausolée, musée, avec toutes ses œuvres d'art. Mais alors, ce qui est très troublant, c'est que Banderas s'est fait la tête d'Almodovar, avec quelques kilos en moins. Mais enfin, il a la même barbe, les mêmes cheveux ébouriffés. Il s'habille comme Almodovar, avec ses vêtements, ses couleurs. Il habite dans un appartement qui est celui d'Almodovar, le grand chef op José Luis Alcaín, qui est le chef opérateur d'Almodovar depuis des années, et aller repérer dans son appartement comment la lumière bougeait au fil des journées. Alors, est-ce que c'est un autoportrait? Est-ce que c'est un autoportrait trompeur, Diane Bracco?
Alors, Almodovar joue avec le spectateur aussi dans ses déclarations, parce qu'il se défend d'avoir tourné une autofiction, mais en même temps, vous venez de le dire, les autoréférences sont évidentes, et lui-même a dit qu'en réalité, le film est une partie de lui-même, et notamment parce qu'il met en scène ce personnage de cinéaste, dont la trajectoire ressemble beaucoup à celle d'Almodovar. On a plusieurs références aux années 80, notamment à travers une histoire d'amour interrompue. Alors, je ne veux pas trop en dire pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu le film.
Mais personne ne l'a vu en France. Hein. Ils sortent donc le 17 mai.
Si certains sont allés en Espagne, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, on a ces références à des étapes de sa vie, de son parcours, qui font inévitablement penser à Almodovar lui-même. Et c'est à nouveau un film, alors ça n'est pas la première fois dans son cinéma, bien sûr, mais c'est un film qui offre une réflexion méta-cinématographique, hein, et c'est une réflexion aussi sur la création elle-même. On a la création théâtrale aussi, l'écriture. Hein, vous avez parlé de la nouvelle, hein, qui va être à l'origine du projet. C'est quelque chose qu'on rencontrait déjà dans La loi du désir et dans La mauvaise éducation, qui, d'une certaine manière, mère constitue une sorte de triptyque. On retrouve donc dans les trois films deux personnages masculins, donc qui sont liés par des amours ou des amitiés tourmentées, suspendues. Donc ce thème de la création.
Ce sont des cinéastes à chaque fois.
Voilà, ce sont des cinéastes. On a la question du retour à l'enfance, vous l'avez évoqué, avec l'enfance marquée par l'influence religieuse notamment. Et ce qui est aussi formidable dans ce film, c'est la prestation de Penélope Cruz, qui convoque le personnage qu'elle jouait dans Bolbert.
C'est la mère absolue pour Almodovar, hein. C'est la Sofia Loren espagnole.
Voilà, il y a cette filiation-là aussi avec le néoréalisme italien, même si dans la facture c'est très différent, mais il y a une influence qui est présente. Hein.
Le retour à Banderas n'est pas anecdotique, il ne faut pas oublier. Bah, toute proportion gardée, Antonio Banderas, c'est un peu le Jean-Pierre Léo du Truffaut qui est Almodovar, c'est un peu notre Antoine Doinel.
Le Mastroianni aussi de Fellini, on pourrait dire.
Effectivement, on a absolument. Donc, revenir, que ce soit cet acteur-là qui va jouer ce rôle dans un film qui va parler de sa propre enfance et dans lequel on va voir, je ne dévoile rien, hein, mais il y a un moment fondationnel chez Almodovar créateur qui vient de sa mère. Le film, encore une fois, ce serait un hommage ou un dialogue avec sa mère morte. Et c'est le moment où sa mère, dans son quartier, comme elle savait lire, elle lisait les lettres des voisins analphabets et elle inventait des choses en lisant les lettres, des histoires très fantasques. Et après, comme Almodovar écrivait très bien, c'était lui qui écrivait les réponses quand il avait 8 ans, donc à peu près l'âge du personnage du film. On voit ça un petit peu dans le film. Et donc, je crois qu'il revient à ce moment aussi de la naissance du désir, de la naissance de la création. Et effectivement, c'est dans le genre des confessions aussi, ce film. Des confessions douloureuses, mais dans les désirs, il y a la douleur aussi.
Pedro Almodovar aura-t-il la Palme d'Or enfin cette année ? Réponse dans quelques semaines.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Merci Diane Bracco, on se quitte, vous l'aurez reconnu évidemment. Merci. Sur Piensa in Me, la chanson de Luz Casal, devenue un tube mondial avec le succès tout aussi mondial de Talon Aiguille en 1991. Douleur et gloire de Pedro Almodovar sortira donc le 17 mai, en même temps que sa projection en compétition au Festival de Cannes. En attendant, vous pourrez revoir certains des films dont nous avons parlé aujourd'hui et d'autres encore sur Arte, qui diffusera à partir de lundi prochain Parle avec elle, Femme au bord de la crise de nerfs, La mauvaise éducation et Julieta, ainsi qu'un documentaire de Sergio Mondello, Pedro Almodovar, tout sur ces femmes. Festival de Cannes encore, celui qui aurait dû avoir eu lieu il y a 80 ans, en 1939. Il devait commencer le 1er septembre et il fut annulé, évidemment, pour cause d'invasion de la Pologne par l'Allemagne. En attendant sa recréation à l'automne à Orléans, la ville de son fondateur Jean Zé, où on pourra voir l'intégrale des 30 films sélectionnés à l'époque et pas des moindres, on peut en avoir un aperçu toute cette semaine au Saint-André-des-Arts à Paris. Ce soir, par exemple, vous pourrez voir Un nuage sur l'Europe de Tim Whelan et Quatre plumes blanches de Zoltán Korda. Et puis ne ratez pas mardi ce film qui a tant fait pour la légende mondiale de Notre-Dame de Paris, Le Quasimodo de William Dieterle avec Charles Laughton dans le rôle titre. Et oui, il avait été sélectionné au Festival de Cannes en 1939. Côté réédition, vous pouvez voir en salle les versions restaurées de Cérémonie secrète de Joseph Losey, du Novecento 1900 de Bernardo Bertolucci, dont Mathieu Macheret nous avait parlé fin décembre pour sa sortie en Blu-ray. Et puis deux films d'un des maîtres absolus de Pedro Almodovar, Douglas Sirk, Mirage de la vie et Le temps d'aimer et Le temps de mourir. Le temps encore de vous signaler la sortie de deux ouvrages, celui qu'Emmanuel Burdeau vient de consacrer à Billy Wilder, Gravité aux éditions Luxe, à lire avant ou après avoir réécouté le plan large que nous avions consacré au maître de la comédie américaine le 19 janvier dernier, et puis aussi les entretiens pour la plupart inédits en France de Pier Paolo Pasolini, qu'il a accordé de 1949 à 1975. C'est tout à fait passionnant et c'est aux éditions Delga. On retourne à Cannes en 1996. Imaginez ce qu'on va écouter là dans un instant, accompagné de sifflets et de sièges qui claquent.
Turnipseed was on his way back home to Fresno for the weekend. James Dean was on his way to an automobile race in Salinas. Salinas was just a dusty town in Northern California. The two would meet for one moment. But it was a moment that would create a Hollywood legend. You'll notice that we're not wearing helmets or safety padding of any kind. Our cars are not equipped with roll cages or seat belts. We rely solely on the skill of our drivers for our safety, so that we can bring you the ultimate in authenticity. All right. Here we go. The fatal crash of James Dean. Okay, let's wind it up.
Donc, David Cronenberg filme des gens qui ont leur propre sexualité. Pour eux, l'extase érotique s'obtient dans des accidents de voiture, comme dans cette scène où on rejoue l'accident fatal qui a fait de James Dean une légende d'Hollywood. Le film Crash, considéré aujourd'hui comme un des meilleurs de son auteur, est présenté à Cannes et il y provoque un des derniers grands scandales qu'ait connu le festival, beaucoup plus apaisé aujourd'hui, hein, il faut le dire. Et il s'en sort tout de même avec un prix spécial du jury, malgré l'opposition farouche de son président, Francis Ford Coppola. Il le reçoit sous les huées de certains spectateurs de la cérémonie de clôture. Gilles Jacob, qui était alors le délégué général de la manifestation, s'en souvient encore comme d'un bain de sang. Que s'est-il passé? Notre partenaire Sofilm a mené l'enquête de la réception de ce film, de sa fabrication, mais aussi de son origine. Le livre tout à fait sulfureux déjà de l'écrivain anglais James Graham Ballard, qui déjà à sa sortie en 1973 avait provoqué cet avis assez peu flegmatique d'un critique britannique. Cet auteur est au-delà de toute aide psychiatrique, ne pas publier, Fernando Ganso.
Oui, vous avez raison, Antoine. En plus, vous y étiez, je pense.
Ah, je m'en souviens encore de cette séance. Il fallait se battre pour le film.
Ah oui, j'imagine bien. En tout cas, c'est un film, je trouve, absolument dément, sur lequel il y aurait énormément de choses à dire. C'est un film étrangement un peu oublié, je crois. On a du mal à revenir, à réévaluer. Et donc, pour cette chronique, on a préféré, effectivement, pour ce numéro de ce film, s'est concentré sur ce qui s'est passé avant et après le film, car non seulement sa sortie provoque cette polémique, mais il va bouleverser aussi l'auteur du roman que le film adapte, James Graham Ballard, qui trouve le film quelque part plus puissant, plus intense que son original, mais qu'à chaque fois qu'il le regarde, il dit « Je ne peux pas m'empêcher de penser que le type qui a écrit ça doit être fou ». Et donc, ça vaut la peine de revenir aux circonstances dans lesquelles il a écrit ce livre, même si l'histoire est un petit peu connue. Mais bon, Ballard a perdu sa femme, victime d'une pneumonie foudroyante, et doit rentrer seul depuis la côte espagnole où ils sont en vacances vers l'Angleterre, et ses voyages sont traumatisants en voiture. Même si, comme on peut constater à la lecture de son œuvre, Ballard un peu peu grandi, entouré de la folie et de la mort, il suffit de lire L'Empire du Soleil, cette disparition le fait sombrer dans un état de dépression d'où il n'arrive à sortir qu'en écrivant deux livres, La foire aux atrocités, les titres parlent beaucoup, et Crash, qu'il considère, je lis, une attaque contre les suppositions conventionnelles sur notre aversion envers la violence en général et la violence sexuelle en particulier, alors que la plupart du temps, nous choisissons de nous divertir avec des films, romans ou BD qui développent des niveaux de cruauté et de violence épouvantables. D'abord, il va faire une exposition avant le livre dans lequel les passants circulent entre deux épaves de voitures et une femme au sein nu. Selon Ballard, qui est un peu mytho peut-être, les voitures ont même fini en subi la violence des passants. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à écrire ce roman sur la connexion entre la sexualité et l'accident des voitures. Une fusion largement conduite par le culte de la célébrité. Parce qu'effectivement, Ballard se rend compte que les gens qui sont morts dans un accident de voiture restent beaucoup plus célèbres que ceux qui vont mourir dans un incendie, par exemple, ou un accident d'avion, dès James Dean, Albert Camus, un personnage par JFK. Cronenberg a du mal à finir le livre. Finalement, il le finit fasciné, il l'adapte, et les films arrivent à Cannes en 96. Et c'est là, donc, que la polémique commence. La presse est très hostile. Gilles Jacob, le directeur du festival, ne se souvient pas de s'être fait insulter à ces points pendant une projection, nous dit-il. Quelqu'un va même le secouer et lui dire « Ce que vous avez fait là est une mauvaise action. Je vous pardonnerai jamais. » Et Francis Ford Coppola, donc président du jury pour le dîner des délibérations, il va faire trois petites piles où il met des mots, des petits bouts de papier où il a noté titre réalisateur de chaque film. Donc la pile de potentiel gagnant, des piles des films en discussion et la pile des films qui n'ont aucune chance. Et quand il prend le petit mot David Cronenberg Crash, il le brûle directement avec son briquet. Et donc cette polémique va étrangement avoir un écho en Angleterre. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante, parce que dans les pays des Ballard, c'est du côté de la presse des droites que par exemple le London Evening Standard va décrire le film comme allant au-delà des limites de la dépravation. Surtout le Daily Mail décide d'être à la tête d'une croisade, on pourrait dire, qui demande même l'interdiction du film. Et Ballard, il va sentir cette réaction comme la description parfaite d'une nation nerveuse et étrange, du pire de ce qu'on appelle la « Little England », qu'on ne va pas comparer à la France moisie, mais qui décrit peut-être quelque chose de cette Angleterre avant Brexit. Je m'explique, quand le film sort, on est en pleine campagne électorale presque, et la presse conservatrice cherche à prouver qu'elle a toujours une influence cruciale face à la montée du Parti travailliste de Tony Blair, par exemple. Alors que des membres du gouvernement des jeunes majeurs soutiennent les demandes de censure du film, un film pervers et dépravé, il considère. Et un journal de Bristol prophétise que les conducteurs qui verront les films vont percuter d'autres voitures en quête de plaisir sexuel, ce qui évidemment n'arrive jamais. Et la sortie du film va se retrouver effectivement décalée. Dans certaines villes, il sera même banni de leur écran, comme Westminster. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que finalement, à un moment donné, deux mondes diamétralement opposés, cette Little England et le Festival des Cannes, vont exprimer les mêmes sentiments de rejet. Peut-être que Ballard avait raison, et qu'il y a dans Crash quelque chose de juste, capable de mettre à sac le confort intellectuel de quiconque.
Fernando Ganso, on se quitte sur cette musique très inquiétante d'Howard Shore pour Crash. Pour tout savoir sur ce film et sur sa légende noire, c'est à lire dans le nouveau numéro de SoFilm avec Jean Dujardin en couverture et une question: à quoi rêvent les acteurs? Élément de réponse avec Antonio Banderas qui vous a accordé un entretien. Et vous publiez également dans ce numéro de SoFilm une lettre d'Almodovar à Banderas. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Julien Calvas. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet. Bonnet et réalisé par Massimo Bellini. La semaine prochaine, pas de plan large pour cause de festival Imagine en direct du Centre Pompidou. On vous y attend nombreux avec Aurélie Luneau, Julie Gacon et Toufik Hakem. Nous vous proposerons 4 heures d'émission en direct et en public où il sera question d'histoire et de préhistoire. Plan large reviendra dans 2 semaines en direct de Cannes. Nous serons, si tout va bien, avec John Carpenter, Jim Jarmusch et Bertrand Bonello pour une émission tout à fait horrifique. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.